Bonsoir et bienvenue à cette tribune de la presse qui aborde trois sujets ayant dominé l'actualité de la semaine. Les affrontements en Nord Kivu à l'est de la RDC, le lancement par l'opposition d'une motion de défiance mercredi dernier contre le ministre d'État près des présidents de la République. Ceci, suite au crash survenu il y a une semaine à Kinshasa. Enfin, résultat faible aux examens d'État 2005-2006. Nous recevons pour en parler Roger et Bolinda Nzinga, correspondant des journaux L'Étendard, La Tribune et Congo Matin, à Kindu, au Maniema. Claude Molicho Kayembe, journaliste à la radio-télévision nationale RTNC, ici à Kinshasa. Et Martin Moukanya, directeur de rédaction du journal La Tempête des Tropiques, paraissant également ici à Kinshasa. Nous devons également avoir dans cette émission Wilfried Raoul Adoun, journaliste béninois de l'agence Cible Production, spécialisé dans la distribution des émissions radiophoniques en Afrique de l'Ouest francophone. Malheureusement, la ligne téléphonique n'est plus bonne. L'actualité de cette semaine en RDC était dominée par les affrontements entre l'armée nationale et les troupes insurgées fidèles au général déchu Laurent Kunda. Une accalmie s'observe ce vendredi dans les secteurs de Mushaki, Biambwe, Matanda et Katale, à plus de 40 km à l'ouest de Goma dans les territoires de Masisi. Accalmie qui intervient après d'intenses combats qui opposaient depuis mercredi soir jusque hier dans l'après-midi des FARDC aux insurgés de Laurent Kunda qui n'ont pas pu être délogés de leur position. Pour la 8e région militaire, il ne s'agit pas d'une trêve dans les combats. Les FARDC restent sur leur défensive. C'est l'équipe Lamondo.
C'est depuis hier jeudi après-midi, en effet, que le calme est revenu à Mushaki, Biambwe, Matanda et Katale, dans les territoires de Masisi. Le calme est notamment rétabli ce matin à Katiru et Mweso, au-delà de Kichanga, une centaine de kilomètres à l'ouest de Goma, toujours dans les territoires de Masisi, selon le général Mayala, commandant de la 8e région militaire. Des combats opposés depuis mardi dernier des FARDC de la 15e brigade intégrée aux insurgés. Cette accalmie est aussi observée à Runyoni, sur la route de Bunagana, dans les territoires de Rutshuru, affirme la même source. Pour le général Mayala Nkiama, cette accalmie va être observée si et seulement si le général déchu Laurent Kunda respecte le cessez-le-feu qu'il a demandé il y a plus de 24 heures maintenant. Les FARDC seront contraints de répondre à toute provocation qui proviendrait des hommes du général déchu, affirme toutefois le général Mayala, le commandant de la 8e région militaire, qui a tenu à rappeler que les troupes non brassées du Nord Kivu ont jusqu'au 15 octobre pour se rendre au brassage. Pour l'instant, aucun bilan des affrontements de Mushaki n'est encore disponible. La 8e région militaire parle d'au moins 19 insurgés tués et 8 armes récupérées dans les affrontements d'hier à Katiro. 2 soldats FARDC ont trouvé la mort et 3 ont été blessés dans ces affrontements, selon la même source.
Nous nous rendons directement à Kindu, au Maniema, région de Roger et Bolinda Nzinga, puisque vous êtes à l'est du pays et ces affrontements se déroulent également à l'est du pays. Votre réaction par rapport à cette accalmie observée ce jour?
Bien, merci, cher confrère. Avant d'aborder ce point, je pense que vous êtes sans ignorer que les politiciens de notre pays, et je cite la RDC Congo, ont fait avaler à la nation une pilule amère juste pour chercher la paix. La nation a accepté Mariel, l'inacceptable, n'est-ce pas? Mais M. Kunda Bakare, comme ses frères du terroir, ont été gratifiés de tout ce qu'ils ont commis comme acte. Les ont accepté l'intégration dans leur nouvelle société qui est la RDC Congo. Mais ces messieurs qui continuent à nous faire, nous les Congolais, ici je parle en tant que patriote, en même temps journaliste, la guerre a refusé toutes les propositions et même cadeaux qui se trouvaient à ce temps-là sur le plateau d'or. On lui a attribué les grades du général de brigade avec décret présidentiel. Mon frère, que voulez-vous de plus que cette nation offre encore à Laurent Kunda? Moi, je pense que ça, c'est mon avis. On ne doit plus continuer à être distrait. Kunda Bakare a déclenché, d'une façon unilatérale, la guerre avec l'appui de ses comités. Aujourd'hui, en déroute, il décrète unilatéralement le cessez-le-feu, juste pour lui donner le temps de se réorganiser et attaquer peut-être éventuellement les différentes positions des FARDC.
Merci beaucoup.
Je pense que c'est passé.
Martin Moukania, vous êtes directeur de rédaction du journal La Tempête des Tropiques. Est-ce que vous partagez le même avis que Roger et Bouline Nzenga, selon lesquels Nkunda demandait un cessez-le-feu pour se réorganiser?
Pas totalement. Je ne sais pas si Nkunda demandait un cessez-le-feu pour se réorganiser. S'il l'a fait, c'est ce que nous avons demandé à Kinshasa, dans notre livraison d'aujourd'hui. Kinshasa attend juger Nkunda par ses actes.
Voilà, je l'ai d'ailleurs sous mes yeux, la tempête des tropiques de ce vendredi. Retournement de la situation au Kivu, Kinshasa attend juger Nkunda par ses actes. La prudence de plus en plus recommandée. Et je l'ai lu à la manchette, c'est-à-dire à la première page.
Oui. Nous avons dit ainsi pourquoi. Nkunda, en demandant le cessez-le-feu, peut-être qu'il y a d'autres idées derrière la tête. S'il en a, les positions des FARDC, le gouvernement en place doit être prudent pour éviter d'être surpris. Peut-être qu'il a pris cette décision-là pour permettre de se réorganiser. Ça, c'est un. De deux, le Kinshasa doit saisir la balle au bon.
C'est-à-dire
que maintenant Nkunda a demandé le cessez-le-feu, Nkunda est affaibli, que Kinshasa puisse accélérer la voie politique, chercher à approcher Nkunda.
Mais puis il a dit qu'il était prêt à envoyer 500 militaires au centre de regroupement, mais ce n'est pas encore le cas, que je sache.
Envoyer les 500 militaires, est-ce que c'est ça l'effectif de Nkunda? On ne connaît pas l'effectif total de Nkunda. Les 500 militaires, si combien de militaires que Nkunda a dans les montagnes de Kivu?
Mais il va encore jusqu'au 15 octobre, selon, c'est-à-dire lundi prochain, d'après l'ultimatum lancé par le chef d'état-major des FARDC.
Bien sûr que la décision du brossage est venue de Kinshasa. Cet effort doit être accompagné d'autres mécanismes pour accélérer le brassage. Il y a deux ans, le brassage a toujours été refusé, rejeté par nos compatriotes d'expression randophone. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que ce sera facile qu'ils acceptent le brassage. Donc il faut d'autres efforts pour permettre à nos frères du randophone d'accepter le brassage afin que la paix puisse revenir. Dans les Kivu.
Alors, Claude Moulicho Kaimbe, je vous rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale RTNC ici à Kinshasa. Vous êtes du même avis que nos deux confrères, vous venez de le suivre d'ailleurs.
Oui, moi je dirais que j'ai toujours dit que cette question d'un Nkunda Batware, il faut toujours faire les choix. Il faut que le gouvernement congolais fasse les choix, c'est-à-dire l'option militaire jusqu'au bout, ou soit l'option politique ou négociation jusqu'au bout. Mais comme aujourd'hui Nkunda est en difficulté, il crie. Il a décrété le cessez-le-feu.
C'est le même cas. Je rappelle à nos auditeurs que Nkunda avait décrété le cessez-le-feu lundi, si mes souvenirs sont bons. Excusez-moi, Nkunda avait demandé, il avait refusé le cessez-le-feu, il avait dit qu'il optait désormais pour la solution militaire lundi, et mercredi, il a demandé un cessez-le-feu.
48 heures après, il a changé de position pour décréter le cessez-le-feu. Et pourquoi? Parce que Nkunda a été sérieusement bombardé. Parce que lui, il se retrouve à la hauteur de Kimoka, de près de Sake. Et il est en difficulté aujourd'hui. Il y a l'aviation congolaise qui bombarde les positions d'Nkunda. Et il est en difficulté. Et je me dis, si il faut encore donner une autre chance à Nkunda, qui change de position à tout moment, c'est afficher la faiblesse du gouvernement. Parce que Nkunda a montré ses intentions plusieurs fois. Il y a eu mixage, il s'est opposé au mixage, et on dit brassage. Maintenant, aujourd'hui, il va donner 500. Militaire, 500 de ses hommes pour le brassage, mais là, en même temps, les randophones refusent le brassage, mais on ne sait pas concrètement qui est Nkunda.
Est-ce que vous n'êtes pas du même avis que Martin Moukania, qui dit que c'est peut-être maintenant l'occasion de favoriser une solution politique, puisque Nkunda lui-même a demandé un cessez-le-feu?
Politique, oui, mais moi j'ai dit. Il faut que ça aboutisse, parce qu'il y a les populations civiles qui sont en difficulté, qui meurent de faim, qui n'ont pas d'habitation. Il y a beaucoup de Congolais qui souffrent dans l'Est. Ils attendent une solution du gouvernement congolais, surtout que c'est un gouvernement élu. Le président de la République, il est arrivé là-bas le mois passé, et on lui a dit, les gens de Nkunda sont là, sous les montagnes de Kimoka. Ils sont là, quand le président s'adressait à la population à Sake. Et on lui a montré, président de la République, voilà, les hommes de Nkunda sont là, ils nous regardent au-dessus des montagnes. Il faut les déloger jusqu'au dernier retranchement. Et le président avait dit, d'ici les 15, le président de la République a donné cet ultimatum, d'ici les 15, il faut que toutes ces bandes armées puissent aller au brassage. Mais le problème, c'est que les rois, les randophones ne veulent pas le brassage. Il refuse le mixage, il refuse également le brassage.
Mais il y a aussi des rondes qui sont dans des unités déjà brassées, donc il faut pas je pense qu'il ne faut pas généraliser.
Le problème, c'est qu'ils sont majoritaires autour d'un Kunda. C'est ça, mais ceux qui sont, ceux qui ont accepté les brassages, ils sont minoritaires par rapport au grand nombre de forces armées. Mais ceux qui sont fidèles en Kunda, la plupart sont de Rondopon, et c'est ceux-là qui refusent et le mixage et le brassage.
J'ai devant moi également ici le palmarès de ce vendredi, et dans la première page, nous lisons la localité de Mouchaké, désormais dans les collimateurs en Kunda, en débandade, pas de cesser le feu pour les FARDC. J'ai aussi devant moi le phare de ce vendredi 12 octobre, et à la première page, on y lit « Après 10 jours d'intense combat, alarme l'eau d'un Kunda cède aux pressions ». J'ai aussi devant moi une dépêche de l'agence France Presse d'aujourd'hui, dans laquelle dépêche le Rwanda, où l'armée rwandaise dément le fait de s'être introduit dans le territoire congolais pour soutenir les troupes insurgées de Laurent Kunda. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes à Kindu, Roger Bolindanzenga?
Je pense que moi je vais abonder dans le même sens que le vice-ministre de la Défense nationale qui a dit que le cessez-le-feu décrété unilatéralement par Kunda et son acceptation d'envoyer nos frères Banyamulenge au Bassac doit être concret. Comment? S'il envoie d'abord ses militaires au Bassac et non avec des conditions que je vais envoyer 200, je vais envoyer 500, il envoie d'abord une partie, par exemple 2000 hommes, on les accepte. On les dissémine à travers les différents centres de brassage disséminés qui se trouvent à travers le pays. Et lui-même, il nous envoie encore la deuxième vague différente. Comme ça, on saura qu'il a quand même cette bonne volonté de respecter les cessez-le-feu. Dans le cas contraire, en tout cas, je ne sais pas, Donc, il est en train d'exposer nos frères et nos compatriotes d'expression rwandaise, au fait.
Est-ce qu'il n'y a pas risque là de confondre la guerre menée par Laurent Kunda et avec peut-être le combat politique de nos frères d'expression rwandophone? Est-ce qu'il n'y a pas risque de mêler les deux?
Non. Parce qu'il serait vraiment superfétatoire d'accepter qu'il doit y avoir des confusions. Mais nous avons le général Obedi, il est d'expression rwandophone. Nous avons plusieurs généraux, parce que s'il faut compter d'une façon superficielle, il peut se retrouver, si pas 30, mais pas moins de 20 dans les FARDC.
C'est-à-dire dans des postes de commandement? Dans des postes de commandement, vous voulez dire?
Si, pour les postes du commandement. Ils sont nombreux.
Claude Molito, il y a aussi des risques de... il y a des conséquences sur le plan humanitaire, le déplacement des populations qui fuient les combats. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne prenne pas une ampleur beaucoup plus grande?
Il y a déjà de l'ampleur, vraiment, les Congolais sont...
On parle de 370 000 déplacés.
On parle de 700 000 Congolais qui sont dans la nature, sans soutien. Et même le gouvernement, il y a des missions, des ministres qui sont allés là-bas aux affaires humanitaires, des ministres de la presse et de la communication nationale, et les autres membres du gouvernement, mais ils n'ont pas apporté une assistance considérable à cette population-là qui souffre. Et c'est très dangereux. Et quand les gens vivent dans ces conditions-là, il faut imaginer toutes les conséquences, les maladies, tout ça, et les conséquences seront néfastes sur le plan environnemental, et il faut imaginer les conséquences. Mais moi, je voulais revenir sur les problèmes, parce que notre confrère de Kindu a parlé des postes de commandement qu'on a donné aux rwandophones. On se dit qu'un Kunda aujourd'hui, quelqu'un qui a été radié de l'armée, qu'on lui donne encore un autre poste, mais c'est commettre une erreur.
Non, il a dit qu'il y a quand même au sein de l'armée nationale de rendre compte qu'il occupe des postes de responsabilité.
Oui. Parce que nous parlons d'un Kunda aujourd'hui. Parce que nous parlons d'un Kunda, ce serait une grosse erreur de reprendre Kunda au sein de l'armée nationale. C'est tout, il est sous mandat d'arrêt international. Et ce serait une grosse erreur.
Même pour favoriser une certaine réconciliation nationale.
On peut se réconcilier, mais quelqu'un, il doit répondre de ses actes. Ce qu'il a posé, vous savez combien de morts on a arrêté depuis que Kunda a commencé sa guerre dans les massifs et dans les ressources? Combien de morts? combien de gens qui ont perdu des biens, qui ont perdu, donc, combien de familles dispersées et combien de déplacés de guerre. Ce sont les conséquences des passes, et tout ça, ça retombe sur la tête d'un coup, parce qu'il a été chassé de l'armée, et il doit répondre de ses actes, il n'est plus quelqu'un. Donc, si on veut reconnaître une Kunda comme un interlocuteur valable, je me dis où est-ce qu'on en est. Et il y a d'autres qui préconisent même la réintégration des Kunda au sein de l'armée, c'est une erreur.
Martin Moukania, je rappelle que vous êtes directeur de rédaction du journal La Tempête des Tropiques. Comment vous réagissez par rapport à cette dépêche de l'AFP qui parle du démenti de l'armée rwandaise selon laquelle elle n'est pas intervenue dans les combats entre les FARDC et le Rwanda Kunda? Parce que dans la dépêche d'aujourd'hui de l'agence France-Presse, il est écrit qu'un officier des FARDC s'exprimant sous couvert d'anonymat a affirmé que dans la nuit du 6 au 7 octobre, deux bataillons rwandais sont entrés à partir de Kavuranga, près de Kibumba, localité congolaise située dans le parc national des Virunga, à moins de 5 km de la frontière rwandaise. Et interrogé par l'AFP, Laurent Kunda a catégoriquement nié ces allégations. Comment vous réagissez par rapport? Est-ce qu'il y a vraiment un risque que l'armée rwandaise puisse prêter main forte aux troupes d'un Kunda, comme une certaine opinion l'accuse?
Les affrontements se déroulent le long de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Et l'économie rwandaise, toutes les entreprises qui permettent à la florissement de l'économie rwandaise se trouvent le long de cette frontière-là. Donc, le Rwanda a tout intérêt de protéger cette frontière. Donc, ça, c'est le premier élément. Si l'armée rwandaise est intervenue en RDC à côté de Kunda, Kigali ne peut pas l'accepter à l'heure qu'il est. Kigali ne peut pas accepter.
Et pourquoi l'armée rwandaise interviendrait en faveur des troupes de Laurent Kunda, d'après vous?
En faveur de Laurent Kunda. Bon, on a toujours dit, c'est bien secret pour personne, on a toujours dit que Kunda a des appuis ailleurs. Il a des hommes. On a visité Kigali et Kampala, c'est connu de tout le monde. Mais à l'heure qu'il est, c'est difficile que Kigali puisse s'afficher publiquement après la signature de l'accord de la tripartite plus à Lubumbashi, qui a réuni les différents chefs d'état-major des armées respectives, s'affiche publiquement que j'ai envoyé des hommes là-bas, c'est difficile.
Est-ce que vous voulez dire par là que l'armée rwandaise peut le faire, mais sans s'afficher?
L'armée rwandaise, effectivement, l'armée rwandaise peut le faire sans s'afficher.
Et pour quel intérêt d'après?
Je vous ai dit, l'économie du Rwanda, tous les grandes entreprises qui contribuent à l'économie du Rwanda, c'est tout le long de notre frontière. Ce n'est pas pour rien que Kigali a toujours fait pour protéger ses frontières. Mais quand il y a une insécurité de ce côté-là, l'armée rwandaise ne peut peut-être faire tout pour protéger ses hommes. Parce qu'on ne sait jamais, à partir de ces affrontements-là, et puis il y a des dérapages, les forces de l'air peuvent en profiter et aller déranger les Rwandais.
Roger, vous intervenez depuis Kindu-Maniema rapidement. Est-ce que vous pensez que, en intervenant par exemple aux côtés d'un Kunda, l'armée rwandaise protégerait mieux ses frontières? Rapidement, s'il vous plaît.
Bon, toi, je vais vous dire ceci. Hein. Le phénomène Laurent Kunda était secret des polichinelles. Le peuple congolais n'ignore pas que le général Kunda Bissida, il est soutenu par les Occidentaux et quelque part là, par des gens que vous connaissez bien. C'est pas un secret. Je pense que je vous ai parlé de l'agenda caché et de la communauté internationale ainsi que nos pays voisins.
Pourquoi la communauté internationale, d'après vous, aurait un agenda caché?
Agenda caché. Je vous ai parlé des Kosovo. Vous avez une idée?
Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Expliquez-vous un peu, rapidement. Si
non, des preuves. On commence par des rumeurs à travers certaines informations qu'on tire par-ci par-là, et on arrive à tirer une conclusion.
Mais parce que nous sommes des journalistes, nous devons avoir les informations.
À l'Est jusqu'à ce jour.
Merci beaucoup, Roger Ebolinda Nzenga. Je rappelle que vous intervenez depuis Kindu et vous êtes correspondant des journaux L'Étendard, La Tribune et Congo Matin à Kindu au Maniema. Passons directement à la deuxième partie de cette tribune de la presse. Cette semaine était aussi caractérisée par les retombées du crash d'un Antonov 26 survenu à Kinshasa il y a de cela une semaine. Le ministre d'État, après le président de la République, Nelson Koulou, a été appelé à se justifier devant l'Assemblée nationale sur sa lettre adressée au ministre des Transports. Dans cette lettre, il demandait à son ancien collègue, puisque ce dernier a été révoqué, de ne pas généraliser la mesure clouant au sol tous les avions de marque Antonov. Après l'interpellation du ministre auprès du Premier ministre et du ministre d'État auprès du président de la République, Jean-Lucien Boussa, député national et initiateur de la question orale au sujet du crash, a réagi au micro de notre confrère Claude Bousset. Écoutons-le.
Il manque effectivement qu'il y a des responsabilités clairement établies dans le chef du ministre d'État près de la présidence, mais aussi dans le chef du ministre des Transports et Communications. Mais aussi, il y a moyen, et ça, nous allons nous soumettre dès demain, de faire une motion de défiance contre du ministre d'État près de la présidence de la République.
La possibilité d'une motion de défiance, c'est après les résultats de l'enquête.
Non. Dès demain déjà, mon parti a pris la responsabilité de pouvoir initier la motion de défiance, conformément à la Constitution et au règlement intérieur. Mais les autres aspects de la question devront être examinés après l'enquête parlementaire, notamment la responsabilité de la RVA, la responsabilité de la direction de l'aéronautique civile, la qualification des nos pilotes et commandants de bord, l'équipement dont nous disposons, la réglementation, sinon le code de l'aviation civile. Les députés qui seront en mission là-bas vont ramener des éléments qui permettent de décider.
Nous revenons dans ce studio. Votre réaction, Claude Molich au KMB. Avant cela, donc, nous signalons que cette motion de défiance a été déposée mercredi dernier à l'Assemblée nationale par les députés MLC Délice et Samba. Votre réaction par rapport à tous ces événements?
Voilà, oui, j'ai suivi les députés
Jean-Lucien Boussa,
qui dit qu'il n'est pas satisfait des arguments avancés par le ministre d'État, Maître Nkoulou. Effectivement, Maître Nkoulou n'a pas convaincu à l'Assemblée nationale.
Pourquoi? Donc, d'après lui,
il n'a pas convaincu parce que il a dit sa lettre n'a rien à voir avec les crashs de Kingasani, le 4 octobre dernier à Kingasani.
Est-ce que vous pensez que ça va être à quelque chose à voir avec ce crash?
Oui, tout à fait, parce que
en quelle mesure?
Le ministre des Transports, même si on n'a pas voulu entendre le ministre des Transports au niveau de l'Assemblée nationale, il a été révoqué précipitamment. Le ministre des Transports a très bien dit au ministre d'État, lorsque le ministre d'État a envoyé sa lettre, pour dire que non, c'était pour préserver les vies humaines, même si il avait déjà l'idée. Mais cette idée-là, il avait la mesure, loin au sol les Antonov. C'était sous pression. C'est la note de Maître Nkoulou. Parce que Maître Nkoulou, tout le monde a posé cette question au niveau de l'Assemblée. Tous les députés ont demandé en quelle qualité Maître Nkoulou a écrit cette lettre, portant annulation de mesures suspendant les vols des Antonovs dans les ciels congolais.
Je rappelle simplement que dans sa lettre, Maître Nkoulou a dit au ministre des Transports qu'il ne fallait pas généraliser la mesure clouant tous les Antonovs sur le sol. Donc, il fallait créer une commission qui déciderait quels avions Antonovs pouvaient voler et quels avions ne pouvaient pas voler. Et
effectivement, bon, même si il fallait pas généraliser, mais il fallait que la commission mise en place par le ministre des Transports arrive à faire son rapport. Mais Maître Nkoulou n'a pas attendu les rapports de cette commission. Tout d'un coup, donc il y avait quelque chose qui était caché derrière les intentions de Maître Nkoulou. En quelle qualité? Et il a même réservé copie au Premier ministre. Et le Premier ministre n'a même pas réagi à ça. Parce qu'il n'y a pas un chef du gouvernement. Même si le président de la République aussi a reçu copie de cette lettre de Maître Nkoulou, mais le président de la République, c'est toute une institution. Le chef de l'État, c'est toute une institution. Mais il y a un chef du gouvernement, le Premier ministre Kizenga, qui n'a même pas réagi. Et il y a aussi une responsabilité du côté-là au niveau du Premier ministre. C'est ce que nous pensons que Maître Nkoulou qui n'a pas convaincu et le député qui a déposé la motion de défiance l'a dit qu'il n'est pas convaincu. Et au jour d'aujourd'hui, selon les dispositions de l'article 196 du règlement d'ordre intérieur, quand on a plus d'un dixième des députés qui ont déposé la motion de défiance, la procédure de mettre à l'écart le membre du gouvernement est entamée. C'est-à-dire, 48 heures après, il faut que l'Assemblée se prononce, c'est-à-dire la majorité plus 1, 250 députés plus 1, doivent se prononcer pour mettre à l'écart, mettre en cours. Et pour sa crédibilité...
C'est-à-dire samedi, demain.
Demain samedi, oui. Pour sa crédibilité, je sais que il est un collaborateur du chef de l'État. Il a aidé le chef de l'État dans beaucoup de dossiers sensibles, mais pour sa crédibilité, et même la crédibilité du chef de l'État, Joseph Kabila, et Maître Nkoulou accepte de partir du gouvernement. Sinon, ça sera discréditer tout le gouvernement. La révocation du ministre des Transports, c'est une conséquence. Mais moi, je parle de la lettre de Maître Nkulu, parce qu'il a réservé une copie au président de la République et au Premier ministre. Mais nous avons un chef de gouvernement, c'est Antoine Kizenga, qui doit dire comment ces dossiers, on a pris la décision de couler aussi tous les Antonov en attendant les résultats de la commission d'enquête. Mais tout d'un coup, il y a un ministre, parce que Maître Nkulu, c'est le ministre d'État. Il est ministre, membre du gouvernement comme ministre des Transports. Les deux sont des ministres. Mais le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Il doit essayer un peu de voir clair sur cette intention de mettre les coups d'annuler toutes les mesures frappant les entonnoirs, coulant les entonnoirs au sol.
Martin Moukania, je rappelle que vous êtes le directeur de rédaction du journal La Tempête du Tropique, paraissant ici à Kinshasa. Comment votre journal a réagi par rapport à l'interpellation, disons d'abord par rapport à ces crashs, à toutes les responsabilités qui doivent être dégagées, et par rapport à l'interpellation de Maître Nkulu à l'Assemblée nationale, et aussi peut-être par rapport à la révocation du ministre des Transports et Communications?
Au niveau de notre journal, nous avons déploré ces crashs qui sont arrivés et ont entraîné la mort de plusieurs personnes, et la discussion de plusieurs habitations. Nous nous sommes dit, après ces crashs, c'était bien que ce jour-là, il y avait plénière, et l'Assemblée s'était saisie du dossier pour mener une enquête sur la situation. Mais curieusement, 24 heures après, le chef d'État révoque le ministre. Là, on n'était pas d'accord.
Pourquoi?
Nous sommes dit, il fallait laisser d'abord l'enquête aboutir. L'enquête allait établir les responsabilités de toutes les personnes impliquées dans ces crashs.
Vous voulez dire qu'on n'a pas laissé le temps au ministre des Transports s'exprimer devant l'Assemblée?
Il fallait que le ministre vienne s'exprimer. Sur l'épouse qui a tenté de parler sur une télévision de la place, a dit que le ministre, pour le moment, reçoit des menaces. On lui demande de se taire. Pour quelle raison on demande au ministre des Transports de se taire? Donc il y a des choses à dire. Pourquoi on a précipité sa révocation? Alors que l'Assemblée s'était déjà saisie du dossier pour interpeller le ministre de Transport, le ministre d'État et toutes les personnes concernées dans ces dossiers, pour cette précipitation-là, nous voulons qu'en plus de ça, même qu'on évoque aujourd'hui l'intervention du ministre d'État, c'est une bonne chose, ou la notion de la motion des chiens, c'est une bonne chose, pour au nom de l'équilibre, je crois. Le ministre d'État, s'il n'arrive pas à démissionner de lui-même, on peut le démettre, c'est au nom de l'équilibre. On les démet et on laisse la commission d'enquête travailler jusqu'au bout pour connaître la vérité. Il ne faudra pas que ça s'arrête là, on sanctionne les gens, on ne connaît pas ce qui est arrivé, on ne connaît pas qui sont responsables de cette situation-là. On prend des décisions à la va-vite, on interdit le vol des entonnoirs, on interdit les produits. Ce n'est pas une politique comme ça à l'issue de ces enquêtes-là qu'on va se fixer. Voilà, monsieur.
Roger Bolinda Nzinga, vous intervenez depuis Kindu au Maniema. Vous êtes correspondant des journaux L'Étendard, La Tribune et Congo Matin. Comment vous avez réagi par rapport à l'interpellation de Maître Nkulu à l'Assemblée nationale et par rapport à tout ce dossier à Kindu?
On aurait confié avant d'aborder d'abord ce dossier de l'Assemblée nationale. Vous venez de citer la citation là où le ministre d'État Maître Nkulu disait que il fallait pas généraliser la mesure pour tous les entonnoirs qui volent dans l'espace de la RD Congo. Vous savez pourquoi?
Allez-y.
Je pense que s'il fallait généraliser cette mesure, on allait clouer au sol toute la flotte aérienne de la Monique. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Monique utilise les hélicoptères qui sont du type RIF. Il y a des entonnoirs, même les hélicoptères. Toutes les flottes, je souligne bien. Alors, jusqu'à présent.
Ça, c'est vous qui le dites, hein. Je sais que la monnaie que tu veux des entonnoirs.
On ne peut pas établir la culpabilité des présumés coupables avant l'aboutissement de l'enquête. C'est ce qu'on a fait. Alors, revenons maintenant au sujet de la motion de science présentée par le groupe de députés contre le ministre Nkulu. Je voudrais d'abord manifester mes réserves autour de l'opinion qu'a le peuple congolais sur ces élites du peuple. En effet, ces derniers, au cours de leurs derniers débats, ils ont toujours eu tendance de privilégier dans leur position politique au lieu de l'intérêt du peuple. La même opinion a toujours été constatée quand nos parlementaires se retrouvent, ils se considèrent comme des ennemis. Raison pour laquelle, au lieu que ces derniers analysent sans passion toutes les questions soumises à leur audite assemblée,
ils trouvent plutôt une occasion pour combattre ou vilipender leurs collègues des partis politiques adverses. Alors, le différent correspondant permanent de l'ex-ministre des Transports expliqua clairement les démarches effectuées ainsi que la décision prise par lui pour autoriser certains autonomes de voler après contrôle par les services compétents sont clairs et nets.
Donc, excusez-moi, cher compère, excusez-moi, Roger, Roger Bolinda, excusez-moi, est-ce que vous voulez nous dire par là que vous soutenez la mesure de, disons, la lettre de Maître Nkoulou, qui disait qu'il ne fallait pas généraliser cette mesure de clouer tous les entonnoirs au sol, mais qu'il fallait une commission de contrôle pour déterminer quels sont les avions entonnoirs qui pouvaient voler et quels sont les avions qui ne pouvaient pas voler?
Voilà, il y a eu une zone d'ombre. C'est pourquoi il fallait laisser la quête évoluer jusqu'à la fin avant de prendre des mesures drastiques.
Non, je demande d'abord votre position, parce qu'on n'arrive pas bien à vous comprendre.
Je voudrais tout simplement vous dire qu'on a pris des décisions d'une façon activement. Certaines personnes ont cherché à induire le chef de l'État à ne rien pour prendre de telles mesures, mais je pense.
Oui, Claude Maurice Okaimbe.
Il faut que notre confrère qui intervient à partir de Kindu sache bien la chronologie des faits. C'est le ministre des Transports qui a institué une commission de contrôle des entonnoirs. Il dit en attendant l'aboutissement, attendant les rapports de cette commission, tous les engins entonnoirs doivent être cloués au sol. Mais 48 heures après, c'est-à-dire la lettre du ministre des Transports date du 12 septembre, et la lettre du maître Nkoulou, deux jours après, 14 septembre. Notre confrère doit savoir la chronologie des faits. 48 heures après, Maître Cour réagira pour dire qu'avec sa lettre, pourtant, annulation de cette mesure.
Donc, Claude Maurice, on voulait dire qu'il y a quand même une certaine responsabilité de Maître Cour dans la levée de cette mesure.
Exactement, parce que c'est dans le même contexte pour voir le contexte des faits et la chronologie des faits.
Martin Moukani, est-ce que vous pensez, peut-être certains de vos confrères le pensent aussi, ou que certains Congolais le pensent, qu'il faudrait que ça ne serait que justice que Maître Nkoulou lui-même peut-être puisse démissionner? Est-ce que vous pensez, vous partagez cet avis de certains Congolais?
À mon avis, oui. Il fallait qu'il démissionne depuis très longtemps, les jours là qu'il est intervenu à l'Assemblée nationale, après toutes les questions qui sont tombées sur lui. Il pouvait les démissionner, puis tirer de le côté pour permettre à l'enquête, il est juriste, il peut trouver des formules, pour permettre à l'enquête parlementaire d'aboutir.
Mais il ne faut pas d'abord attendre que la commission qui a été instituée au niveau de l'Assemblée nationale puisse dégager les responsabilités. Parce que Maître Nkoulou, pour l'instant, n'est pas coupable. Il y a une commission qui a été instituée qui doit dégager les responsabilités. Est-ce que ça fait juste qu'il puisse démissionner avant même que la commission ne puisse donner son rapport? Et si cette commission le blanchissait, par exemple?
La commission le blanchissait, il va retrouver sa place. Il n'y a pas de problème. Il va retrouver sa place. Tous les députés nationaux qui sont succédés pour parler ont démontré la responsabilité de mettre Nkoulou dans les cages. Pour démontrer la responsabilité, il n'a qu'à tenir les conséquences. Comme la décision révoquant le ministre du Transport a été prise dans la précipitation, il fallait aussi qu'il épargne les chefs d'entreprise, qu'ils se mettent pas à l'écart.
Parce que vous pensez que le fait que Maître Nkoulou n'est pas démissionné de lui-même, mais le chef de l'État dans une position pas du tout confortable.
Le chef d'État a pris d'une manière précipitée et cavalière la décision de révoquer le ministre.
Nous allons repartir à Kindu. Roger et Bolinda Nzinga, nous savons que la plupart des avions qui desservent le territoire congolais, puisqu'il n'y a pas assez de bonnes routes, ce sont les avions de type Antonov. Donc, est-ce que vous pensez que cette mesure de l'ancien ministre des Transports, clouant tous les Antonov au sol, pouvait défavoriser l'intérieur du pays?
Bon, ça ne pouvait pas favoriser. Moi, je voulais dire ceci.
Je dis défavoriser. Défavoriser peut-être l'économie de nos provinces.
Oui, mais on a pris la mesure. Il fallait chercher la mesure palliative, la mesure d'échange.
C'est-à-dire?
Oui. Parce que moi, ce qui me préoccupe, c'est le problème de procédure. On n'a pas respecté la procédure. On a voulu trancher activement ce dossier. Mais il faut tirer toutes les conséquences.
Je dis clouer tous les avions Antonov au sol, comme le ministre de l'ancien ministre des Transports l'avait fait dans sa lettre. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure qui peut défavoriser les Congolais qui sont à l'intérieur du pays, qui se déplacent parfois pour faire leurs activités à bord des avions Antonov?
Si. Parce que quand on venait de clouer tous les Antonov au sol, déjà à partir de Chine du Sud, on a connu une montée vertigineuse de prix, surtout des produits de première nécessité, des produits manufacturés.
Mais est-ce que les vies humaines ne comptent pas plus que les commerces, les activités commerciales?
Bon, ça c'est une des conséquences. Ça c'est une des conséquences. Mais ce qu'il fallait faire, il fallait respecter la procédure et préparer une pièce de rechange à prendre des décisions drastiques comme celle-là.
Martin Moukania, vous êtes directeur de rédaction du journal La Tempête des Tropiques. Est-ce que vous pensez que c'était juste de clouer au sol tous les avions du type Antonov, puisqu'il y a, je crois que notre confrère Roger Bominda l'a dit, est-ce que la MONUC utilise aussi des avions Antonov, mais qui sont bien entretenus? Est-ce que ce n'est pas un problème de maintenance?
Vous l'avez lâché le mot. Le problème, c'est l'entretien et la maintenance. Moi, je ne dis pas, je n'ai jamais dit que tous les Antonov sont mauvais. Les Antonov qui viennent en RDC, avant de les mettre en ligne, on fait le contrôle, un contrôle technique. Et régulièrement, dans les domaines de la gestion, il y a des contrôles après 6 mois, les chèques professionnels, les chèques techniques. Est-ce que tous les Antonov qui volent dans les ciels congolais ici sont soumis à ces outils-là? Ce n'est plus le problème. Personnellement, même si on avait cloué les Antonov au sol pendant 2 ou 3 jours, mais il y avait une commission qui s'assurait tous les dossiers. La commission allait donner son rapport. On allait prendre une décision. D'autant plus que la commission s'appuyait sur le contrôle technique des Antonov.
Il fallait attendre d'abord.
Oui, il fallait attendre la commission.
Mais c'est le ministre des Transports lui-même qui avait levé cette mesure.
Mon confrère l'a dit. Mon confrère de la RTMC l'a dit. Est-ce que le ministre n'a pas pris cette décision-là sous pression?
Merci. En 30 secondes, peut-être vous voulez réagir, Claude Molichon, sur ce dossier, parce que nous avons presque fini.
Oui, sur ce dossier-là.
Rapidement, 30 secondes, s'il vous plaît.
Effectivement, le ministre a pris une décision pour épargner les vies humaines, parce qu'il sait bien les conséquences de cette vie autonome lorsqu'il ne passe pas au contrôle. Donc, il fallait réellement que la commission fasse son travail et donc fasse son rapport. Et avant de laisser voler les Antonov. C'est logique en tant que responsable du secteur, c'est logique. Mais subir les injonctions d'un ministre d'État pendant que la commission est en train de faire le travail, c'est anormal, mon confrère.
Merci beaucoup, Claude Molichon Kayembe. C'est au début de cette semaine que les résultats des examens d'État 2005-2006, baccalauréat, comme on le dit dans certains pays, ont commencé à être publiés. D'après le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, contacté par notre confrère Denis Diboko ce matin, les résultats ont été dans l'ensemble de faibles. Votre réaction, d'abord vous, Roger Ebolinda Nzenga, depuis Kindu.
Bien, merci. Pour ce secteur, aussitôt après les résultats par les différents médias nationaux, il m'est venu l'idée d'entrer en contact avec le spécialiste du secteur éducationnel pour qu'on puisse analyser ensemble ce fléau qui frappe ce secteur. D'abord, je me suis entretenu avec un ancien enseignant qui a dispensé ses enseignements à tous les niveaux depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire au niveau d'enseignement primaire, secondaire, et à ce jour, il est à l'université comme chef de travaux. Il s'agit de John Manyombo.
Rapidement, s'il vous plaît. On n'a plus beaucoup de temps.
Après notre analyse, qu'est-ce que nous avons dégagé? Il y a la baisse très sensible du niveau d'enseignement constaté depuis belle lirette. Laquelle baisse est liée à plusieurs raisons. Au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, les enseignants qualifiés sont inexistants. Tout simplement parce que ces derniers ne sont plus intéressés à ce secteur qui ne les rémunérait plus depuis un certain temps. Conséquence, ils fuient pour aller se réfugier dans d'autres secteurs plus rémunérateurs. En deuxième lieu, il y a l'absence totale de matériel didactique, moins encore de bibliothèque. Alors, vous comprendrez que les enseignants qui dispensent le cours à ce niveau-là, non seulement parce qu'au départ, ils ne sont pas qualifiés, mais aussi ne disposent pas l'outil du travail comme ce fut le cas à l'époque.
Merci beaucoup. Rapidement, s'il vous plaît.
Et je vais ajouter qu'au niveau des écoles de l'intérieur, c'est encore plus catastrophique. Parce que même le programme national, il n'arrive pas à le terminer.
Et en fait, c'est le système de changement de correction. Vous savez, parce que c'était la correction manuelle. Actuellement, on a introduit le système informatique. Comprenons-nous quelque chose.
Claude Monisio, KMB, je rappelle que vous êtes journaliste au sein de la rédaction de la Radio Nationale RTNC, ici à Kinshasa. Votre réaction par rapport aux propos de notre confrère Roger Ebolinda?
Oui, voilà. Je suis d'accord avec mon confrère qui dit que vraiment, c'est
un problème d'enseignants. Les gens qui ont des qualifications ne sont plus assez nombreux dans ces écoles.
D'abord, au niveau de la correction, parce que c'est après la correction qu'on s'est rendu compte que les résultats sont faibles comparativement aux années. C'est parce qu'aujourd'hui, on a changé de méthode.
Est-ce que c'est à cause de ça? Ce n'est pas un problème de niveau. Non, les ordinateurs ne font qu'obéir aux
hommes. C'est ça. Parce que, bien avant, il y avait ce qu'on appelle. Ce qu'on appelle les suivis. Les suivis, c'est on prenait les codes de l'élève et de l'institut et de l'élève pour que telle école ou telle école ou telle autre fasse 100%.
Et là, c'était une forme de corruption.
Une forme de corruption. Les niveaux à baisser, nous les connaissons tous, nous venons de très loin. Il faut commencer quelque part pour remettre à niveau l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui peut avoir un papier diplôme, mais s'il n'est pas formé capable, il n'est pas capable de défendre son diplôme, c'est zéro. C'est pour cela que nous saluons cette nouvelle méthodologie de travail au niveau de la correction de l'examen d'État. Et s'il y a beaucoup d'échecs, on accepte. Et pour que d'ici là, les gens vont prendre conscience parce que le niveau d'enseignement a baissé au niveau maternel, primaire, secondaire, même universitaire. Il y a la correction généralisée et il faut commencer quelque part. Et ça a un prix pour arriver à un bon résultat.
Martin Moukania, vous êtes directeur de rédaction du journal La Tempête des Tropiques. Est-ce que la baisse des résultats ou bien le résultat faible enregistré cette année aux examens d'État s'explique par peut-être une nouvelle méthode de correction, comme vient de le dire Claude Moulichou-Kaïmbé?
Pas tellement une nouvelle méthode de correction. Si l'opinion, en général, fait allusion à une nouvelle méthode de correction, pas si c'est posé des problèmes. Avant qu'on démarre cette méthode-là, il s'est posé de bon au niveau du logiciel utilisé. Tout le monde ne parvenait pas à s'adapter. Et ainsi, on a tenté de revenir à la méthode annuelle pour sauver la face. Il y a eu des problèmes à ce niveau-là. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la conséquence, c'est la négligence d'un secteur vital pour la nation par le pouvoir public. Je considère qu'on a. Depuis 2 ans, on laisse l'enseignement à la merci des gens qui ont l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, les enfants ne peuvent pas étudier. Même les enfants qui vont à l'école, soit entre les mains de qui? Est-ce qu'on est entre les mains des gens qualifiés? Il n'y a pas une politique rationnelle. C'est l'éducation dans notre pays.
Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pour sauver.
Il faut investir davantage. C'est ça le secteur vital. Parce qu'on risque d'assister dans ce pays à un taux élevé. L'analphabète.
Qu'est-ce qu'il faut payer pour que l'État mette beaucoup de moyens?
L'État mette beaucoup de moyens au niveau du budget national. Que l'enseignement, que l'éducation nationale puisse récupérer une place de ça.
Merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Donc, c'est la fin de cette tribune de la presse dans laquelle nous avons reçu notre confrère Roger Bolinda Nzinda, qui intervenait depuis Kinshasa, Claude Moulichou-Kaïmbé de la RTNC Kinshasa, qui était au studio, et Martin Moukania, directeur de rédaction du journal La Tempête des Tropiques. Merci donc à nos confrères d'avoir répondu à notre invitation. Bon week-end et à la semaine prochaine. The other one is the other one.